Moi, je m'en tout de suite.
France Culture.
Et en vrai, je vous en prie.
Le Book Club.
Et voilà, donc là, il y a dans le couloir, et après, il y a dans ma chambre, mais ça me gêne un peu.
Bah oui.
Non, parce que je vais mettre... Mais je t'ai cherché partout.
Dans la bibliothèque d'Agnès Jaoui.
À chaque fois, je m'inquiète.
Il est gros.
Oui, il est grand.
Ah, il est grand, pardon.
Il est impressionnant.
C'est une tour Eiffel.
Ouais, ouais.
Enfin, c'est un tour Eiffel, d'ailleurs.
Marie Richeux.
Ouais. Dans le livre qui rassemble quelques-uns des souvenirs d'enfance et de jeunesse d'Agnès Jaoui, un des chapitres s'appelle « Ma comtesse ». Elle y évoque le livre de la comtesse de Ségur, offert par sa mère, une œuvre dont elle dit, je cite, qu'elle fut sa Bible, lui enseigna le bien, le mal, la transgression, le repentir, bien plus que la religion juive, que du reste, personne ne lui enseigna pendant longtemps. Chez la comédienne, réalisatrice, autrice, chanteuse, scénariste, il y a beaucoup de livres, dans les couloirs et un peu partout ailleurs. Les idées de classement changent selon les endroits, parfois par couleur, parfois par thématique des textes ou genre. Dans les auteurs dont elle choisit de nous lire des extraits figurent deux grandes autrices anglaises du 19e, Colette, qui fait parler un chat, Leonardo Padura, qui imagine l'assassin de Trotsky, et un livre de chevet de Jean-Pierre Bacri pour lui faire signe. Une des choses qui relierait ces textes serait une forme de lucidité sur les rapports humains, une façon de n'être pas dupe, ou seulement quand on le choisit. Bref, la bibliothèque d'Agnès Jaoui ressemble à ce qu'elle travaille depuis toujours, et c'est cela qui est beau. On l'écoute. Et c'est quoi le fin mot de l'histoire? C'est que du coup, on se promène un petit peu.
On se promène, ouais, ouais. Et s'il n'y en a pas assez, on ira dans... Enfin, je sais pas, moi, en fait.
Voilà. Donc là, un peu.
Voilà.
Couloir.
Là, on est dans un premier couloir. Donc ça, je ne l'ai pas lu, mais il paraissait très bien. L'orgie capitaliste de Marc Dugain. Jacaranda de Gaël Faye, je l'ai lu, c'est magnifique.
Ah ouais?
Søren Kierkegaard, c'est pour frimer.
Ouais, mais ça marche.
Mais
c'est très impressionnant.
Pas seulement.
Ok.
Je vais mettre en scène Don Juan au Capitole de Toulouse. Et j'ai écrit un film qui se passe pendant la mise en scène des Noces de Figaro. Or, Søren Kierkegaard a écrit sur Don Juan et Figaro.
Ok.
Ok? Ou bien, ou bien. Et apparemment, c'est passionnant.
Super titre, ou bien, ou bien.
Super titre?
Ouais.
Mais j'en ai lu trois lignes pour l'instant.
Si on fait une sorte d'introduction à Agnès Jaoui comme à cet entretien qui commence comme ça, on cherche les livres dans votre maison. C'est ça qu'on est en train de faire.
C'est pas ça qu'il faut faire?
Ah si, c'est ça.
Donc là, on est dans le salon. C'est très très intéressant pour ce qui se passe en ce moment.
D'Arthur Miller.
Avec certaines chasses aux sorcières et certains... voilà, trouver les coupables de on ne sait pas quoi. Enfin si, il faut aller. Bon, voilà. Et donc là, on va dans d'autres couloirs. Et là, je crois que c'est quand même l'endroit de toutes mes copines.
Toutes vos copines?
Oui, parce qu'il y a Jane Austen.
Qu'on ira tout à l'heure.
Ouais, qu'on ira tout à l'heure. Il y a Edith Wharton, qu'on ne lira pas, mais que j'aurais pu. Il y a la comtesse de Ségur. J'ai pas fait exprès, en fait. Hein.
Que dans ce couloir-là, il n'y ait que des autrices? Non,
il n'y a pas que des autrices, non. Mais c'est beaucoup les Anglais et les Anglo-Saxons. Il y a Jonathan Coe, que j'aime beaucoup, et il y a Alison Lurie, quand même. Et je crois que j'ai mis des féministes aussi par là.
Moi, j'ai vu Michel Perrault, puis je l'ai perdu.
Ah bah,
Michel Perrault, pas voilà.
Perdre Michel Perrault.
Françoise Héritier.
Voilà.
Ouais.
Voilà, là, il y en a quelques-uns.
Olivia Gazalé.
Voilà.
Monique Wittig.
Monique Wittig,
quand même. Oui, c'est oui. La bonne compagnie.
Oui, là, c'est un peu. C'est pour ça
Belle
que.
Bell Hooks.
Oui. C'est un peu ceux que je donne pas ou si je les donne, je les rachète. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment. Enfin, moi, je file beaucoup les livres, forcément.
Ah oui? Facilement.
Ah oui.
Et ils reviennent?
Eh ben non.
Ah oui, d'accord.
Non, non.
Ah, oui,
oui. Ça,
c'est pour tout le monde pareil.
C'est assez rare.
Ouais.
Mais voilà, en tout cas, ceux-là, je sais que j'ai envie de les garder. Parce que. Voilà.
Plutôt des. Non, en fait, j'allais dire plutôt des romans, mais non, parce qu'on vient d'énumérer des.
Mais si, si, de façon générale, je lis beaucoup plus de romans que des essais. Un peu plus des essais maintenant, mais j'ai beaucoup besoin d'une histoire. Bon. Mm. Sur les essais, je.
Il y a Bronte, George Eliot, ici.
Oui, oui, bah oui.
Edith Wharton. Moi, je connaissais pas Edith Wharton jusqu'à l'année dernière et ça m'a subjuguée.
Quelle chance!
Moi, j'étais trop contente.
Parce que vous en avez un paquet à découvrir. Ils ont, et moi aussi, parce qu'ils sont pas tous traduits. Je fais un appel aux éditeurs, aux éditrices. Ils sont pas tous traduits et alors, vous allez vous régaler. Ah, les heures du monde, j'ai pleuré dans mon lit et Jean-Pierre me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, mais parce qu'elle. Pardon. faut pas que je vous raconte la fin, mais voilà, c'est très 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 beau. Et je remets le tableau de Jean Diego Membrive à sa place. Oui, il y a le triple mois de ma maman, Ziza Jaoui. Et c'est
un livre... Mais attendez, c'est quoi cette histoire de votre maman?
Bah, ma maman était psychothérapeute. Et elle a écrit donc le premier livre sur l'investissement actionnel, qui était son outil, qui s'appelle Le Triple Mois. Et mon amie Isabelle, l'autre jour, a pris une photo. Il était dans sa bibliothèque, enfin la bibliothèque municipale, et il y avait écrit le best-seller du développement personnel. Ça m'a fait très 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 bizarre.
C'est pas tout à fait ça du coup, non?
Pas du tout.
Ouais.
Je sais pas comment elle l'aurait pris. J'ai bien aimé best-seller pour elle, mais du développement personnel. Ouais. Bon. Oui, il doit y avoir des livres de mon papa, après, d'ailleurs.
Donc au passage, ce qu'on raconte, c'est que vous avez grandi dans une maison où il y avait des livres et des gens qui écrivaient des livres.
Et oui, on raconte ça, c'est vrai, au passage. Là, ceux-là, je les ai plutôt classés par couleur, vous voyez.
Ah oui, c'est vrai.
Hein, ça compte aussi.
Couloir, toujours bibliothèque de couloir. Lieu de passage, ça veut dire que vous passez quand même... Vous arrêtez, vous voulez consulter vos bibliothèques ou pas, Agnès?
Bah, de temps en temps, pour savoir, parce que je ne les ai pas tous lus. Donc des fois je me dis tiens, parce que vous avez remarqué ce phénomène étrange qu'on va dans une librairie, on ressort avec 12 livres,
ouais.
Enfin moi.
On en lit un.
Non, c'est pas ça. Après on se dit ouais super j'en ai plein et on les retrouve pas.
Chez vous, vous l'aidez?
Ouais.
Ah, vous les rangez tout de suite dans la bibliothèque?
Non, je ne sais pas si vous les rangez. si vous pouvez me le dire.
C'est des livres voyageurs.
Et du coup je retourne dans une... et j'en rachète. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc qui est bizarre.
Donc vous avez parfois des moments où vous promenez dans votre propre bibliothèque, ouais. Comme dans une librairie.
Exactement.
Miam, qu'est-ce que je vais pouvoir...
Exactement, mais je ne trouve pas non plus. Hein. C'est très, très... C'est pas, il y a un truc qui est bizarre qui se passe. Mais qu'est-ce que je peux parler de quoi? De Florence Aubenas, le Quai de Ouistreham, il m'a marqué. J'ai vu Carlos Luis Zafón, dont j'ai beaucoup aimé aussi, mais je ne le vois plus.
Je vois Leonardo Padura, dont on parlerait tout à l'heure.
Ah non, Padura, j'ai tout lu. Non, j'ai pas tout lu, mais je suis très, 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 très fan de tout ce qu'il écrit. Enfin, si, j'ai lu tout ce que...
Il y a Michon plusieurs fois, ça veut dire quelque chose ou pas?
Bah oui et non. Okay. En fait, ça veut dire surtout que c'est un des auteurs préférés de beaucoup de mes amis.
Ah oui.
Et qu'à chaque fois que j'en lis des extraits, je trouve ça très beau, mais pour être honnête, je n'ai pas lu du début à la fin. Mmh. Il y a aussi le Quatuor d'Alexandrie, je trouve tellement beau le titre. Il y a du Dépente, évidemment. Enfin, évidemment. C'est vraiment con, hein, comme de dire évidemment, mais... Misia, Anaïs Nin. Oui, en fait, là, c'est beaucoup des livres que j'ai jamais lus, en fait. Je m'en rends compte.
Mais là, Zafón.
Ah, L'Ombre du Vent?
Le Jeu de l'Ange.
Ah, Le Jeu de l'Ange, je l'ai pas lu. J'ai lu L'Ombre du Vent, que j'ai adoré.
C'est marrant parce qu'il y a aussi l'inspecteur une deuxième fois en bas.
Oui, c'est pareil. C'est des autrices que j'aimerais lire. Et donc, ils sont là.
Ouais, ouais.
Non, en fait, je crois qu'il y a plein de livres. Alors que par contre, voilà, le livre de mon père, Le Guide de la Réussite et de l'Épanouissement Personnel.
Bah, il est là, le best-seller du développement personnel.
Il est peut-être moins best-seller. il est. Et ouais.
Vous lisez beaucoup?
Ah oui.
Vous avez toujours lu?
Oui. J'ai cette chance parce que c'est vraiment tellement merveilleux de pouvoir lire, de pouvoir... Enfin, je veux dire, c'est un tel ami. Ah, Le Zéro et l'Infini d'Arthur Kessler aussi, je conseille à tous ceux qui n'ont pas lu. Par contre, je l'ai lu. Mais c'est incroyable. Hein. Je pense trop. Ah ben, je l'ai jamais lu.
Pardon, ça me fait un petit chat dans la gorge.
Ah, Irving Yalom aussi, c'est très 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 intéressant. C'est un psychothérapeute américain. Bon bref, en tout cas ce qui est merveilleux, c'est que ces romans, quand on les lit, on fait une thérapie en même temps. On se sent mieux à la fin, on comprend des choses, enfin... Voilà, bon,
c'est vague. Que vous cherchez dans les livres ou pas forcément, d'aller mieux à la fin?
Oh, je préfère aller mieux qu'aller moins bien.
Toujours, ouais.
Si c'est possible. Après, il y a des livres qui vous font du chagrin et qu'on aime quand même. Mais des fois, c'est bon de pleurer aussi. Évidemment. Enfin, pareil, donc j'arrête de dire évidemment, mais voilà.
Et là, c'est quoi ce petit coin jaune avec Gallimard et Grasset dans leur
eh bien,
dans
c'est
leur
parce
petite
que,
niche?
C'est parce que... Alors, c'est pareil, c'est très esthétique hein, comme choix.
Pas mal, ça marche.
Après, c'est quand même des... Bah voilà, Delphine Horviller, Des Pentes, Karine Thuil, L'Art de la Fiction, David Loge, j'aime beaucoup. Nathalie Clifford-Barney, Liane de Pougy, Philippe Roth. Elena Ferrante, évidemment. Bon, arrête, avec évidemment. Putain, c'est pas possible.
Ça veut dire quoi,
Clarisse Lispector, à nouveau.
Ah ouais, non, mais c'est fou quand même. Hein.
Oui, c'est très, c'est complètement absurde.
Ouais.
Pourquoi non, j'ai non, tous mais ces livres que je lis pas du tout.
Dans l'émission, souvent, on demande comme ça s'il y a des territoires un jour vers lesquels on ira en tant que lecteur et lectrice. Donc peut-être Lispector, c'est ça, Colette.
Oui. Ah, Colette, bien sûr. Non, alors j'ai pas dit évidemment, j'ai dit bien sûr.
Donc ça veut dire quoi, évidemment, bien sûr? Ça veut dire parce que...
Bah, parce que c'est parce des que classiques.
C'est beau, parce que c'est des classiques, d'accord.
Kundera, Giono, voilà, c'est du Jonathan Coe encore. Voilà, tout ça, je pense que j'apprends rien à personne, quoi. Albert Cohen, Bell Schemer.
Tout le monde ne lit pas ça?
Non, bien sûr, mais Nelly Allard... j'aime beaucoup ce qu'elle a écrit. Elle a écrit Moment d'un couple aussi, que j'ai trouvé très très intéressant. Et aussi Alona Kimi, une autrice israélienne de Lilia Tigray, j'ai bien aimé, mais c'était l'autre que j'ai encore préféré. Voilà. Ah si, il y a là aussi.
Je vous suis ?
Parce que, oui. Parce qu'ils sont jolis. Vous voyez, j'ai mis tous les livres rouges. Voilà. Ah, Le complexe de Cendrillon, aussi un livre féministe très intéressant. Mais tout l'humour juif, alors certainement pas tout, mais il y en a un paquet. Et là, on commence aussi avec des livres, enfin du théâtre. Tout ça, c'est la bibliothèque de théâtre.
Vous en avez toujours lu du théâtre ?
Oh non, je trouve ça difficile à lire du théâtre. Mm. Non, j'en lis d'ailleurs essentiellement quand je dois en jouer. Mm. Mais par contre, c'est pareil, je suis contente d'avoir les textes. Mais.
Pourquoi ?
Parce que c'est des amis.
Ouais.
Et puis qu'on peut toujours ouvrir et puis retrouver. Ah voilà, Colette. Flaubert. Marivaux. Voilà, tout ça, ça fait du bien quand même de l'avoir près de soi.
C'est
l'aspirateur.
Il y a deux Césars planqués derrière.
Oui, un truc. Alors,
il y en a pas des. On vous suit, on continue à vous suivre.
Oui.
On ne veut pas être.
Oui, là, il y en a. Et là, dans l'office, dans l'officine. Il y en
a dans c'est quoi l'officine ?
C'est ça. C'est des toilettes avec des machines à laver.
Mais là, il y a des disques. Ah non, il y en a là.
Oui, il y a encore des CD que je garde, je sais pas pourquoi, mais si, parce que j'ai aussi un truc pour... Mais non, il y a là un Donatart et tout ça, et là aussi, il y en a beaucoup...
Les poches, ici.
Voilà, c'est plus les poches. La cabale... Ah, Donatart, je l'ai deux fois. Frédéric Socher, je veux faire du cinéma, il est très marrant, ce livre. Jean Mécaire, Les coups. Joyce, que j'ai pas lu, comme tout le monde. Pierre Michon, à nouveau.
Mais dis donc, Rimbaud le fils.
Voilà, Giono, bon, Simone de Beauvoir, Tolstoï.
Ça, c'est des livres qui ont quel âge, Agnès Jaoui ? Ça fait longtemps vieux. Que vous les avez ?
Oui, absolument. Ils sont très vieux.
Donc, faut vous imaginer proche de ces livres-là, enfin, au sens où c'est un moment de votre vie, quoi. C'est des moments de votre vie.
Mmh, oui.
Pas plus que ça.
Ben si, certains, oui, mais par exemple, il y en a qui sont pas... Enfin, Aurélien, par exemple, d'Aragon, c'est un moment de ma vie, mais il est pas là. Donc, mais il y en a d'autres. Un piège bleu marine, qui a été écrit il y a longtemps, mais...
C'est quoi ?
C'est un livre de Laurence Parisot et de Rose Laprelle, qui parle du danger du RN, qui s'appelait encore FN, je pense.
Voilà. Ah oui, le piège bleu marine.
Voilà. La passionnariat et moi... Ça, incroyable, ça c'était un livre que m'avait conseillé mon père quand j'étais toute petite. Alors ça, c'est un vieux livre que j'ai depuis toute petite, que j'avais adoré.
Donc ça se passait comme ça, on vous conseillait des livres ?
Oui, enfin...
Pas plus que ça ?
Si, moi j'aime bien demander aux gens leurs livres préférés, enfin, aux gens que j'aime bien a priori, et puis après, je les achète ou pas, puis après il y a aussi des livres qui vous conseillent d'autres livres, eux-mêmes. Ça c'est toujours très agréable. Ah, ça aussi. Jonathan Tropper, le livre de Joe. Ah, c'est génial.
Ouais, c'est cool.
Vous connaissez Franzen ?
Oui.
Bah, c'est le même genre.
Okay.
Enfin, c'est complètement con. Comme, mais enfin, voilà. C'est quand même Boris Vian aussi, évidemment. Ah, Agnès !
Ça fait chic un peu.
Oui, c'est ça. C'est tout ce que j'aime.
Il fait très chaud dans cette bibliothèque officine.
Il fait très chaud dans cette officine. Bibliothèque officine.
Waouh. Bon, bah, on a fait un bon tour, là, quand
même. Ouais, c'est l'impression. Hein.
Allez, on va vers les choix.
Allez,
vos choix.
I got six strings in motion, it's 5 o'clock near the ocean. We play 4 bars to the chorus, we got 3 voices to join us. But I got to say one thing to you. Just like a summer day that never fades, we'll stay hotter than a new dance craze. There is one you, one me. Got a love that will always be la 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 la. Like a foot's made for walking and a mouse made for talking, I can't stop my heart from singing, so open your ears and listen, 'cause I got to say one thing to you. Just like a summer day that never fades, we'll stay hotter than a new dance craze. There is one you, one me, and we've got a love that will always be la 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 la.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque d'Agnès Jaoui. Marie Richeux.
Comment vous avez choisi ces textes, Agnès Jaoui?
Selon quel principe?
J'ai essayé de respecter ce que votre demande, c'est-à-dire des livres de chevet, j'ai compris des livres qui comptent. Mm. Et j'ai essayé d'être le plus sincèrement fidèle à mes goûts. Avec une exception pour Musil, qui est évidemment que j'ai lu et aimé, mais qui était la passion de Jean-Pierre Bacri. J'ai eu envie qu'il fasse partie de mon panthéon.
On suit un livre, un ordre comme ça. Par exemple, sur mon papier, ça commençait par Jane Austen, ça vous parle?
C'est très bien, oui.
Allez.
Alors, j'ai beaucoup hésité. Bon, bref, et puis j'ai pas... Bref.
On dit quand même qu'il s'agit de Orgueil et Préjugés.
Oui, bien sûr.
Je ne sais pas la traduction que vous avez retenue.
Moi non plus.
Sophie Chiari.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Donc c'est la lettre qu'écrit Darcy à Elisabeth après qu'Elisabeth ait refusé sa demande en mariage.
Ok.
Donc Elisabeth étant l'héroïne, Darcy étant le héros, et donc elle reçoit cette lettre.
C'est Darcy qui parle.
C'est Darcy qui parle, et Elisabeth était très, très, très étonnée de recevoir cette lettre. Et il dit « Hier soir, vous m'avez fait grief de 2 fautes de nature très différente et d'une gravité qui n'a rien de comparable. La première était qu'aux dépens des sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre, j'aurais détaché M. Bingley de votre sœur, et l'autre, qu'au mépris de certains droits, contrairement à l'honneur et à tout sentiment d'humanité, j'aurais nuit à la prospérité de M. Wickham, avant de ruiner son avenir. Si j'avais délibérément et par caprice rejeté le compagnon de ma jeunesse, le protégé notoire de mon père, un jeune homme qui dépendait entièrement de notre protection et qui avait été élevé dans l'attente de la voir s'exercer, j'aurais commis une vile lénie à laquelle la rupture infligée à 2 personnes dont l'affection ne pouvait remonter qu'à 2 semaines à peine n'a rien de comparable. Mais j'espère qu'on m'épargnera à l'avenir la sévérité du reproche qui a été si franchement formulé hier soir sur ces 2 affaires, lorsqu'on aura pris connaissance de l'explication qui va suivre au sujet de mes actes et de leur motivation. Si au cours de mon explication, je devais exprimer des sentiments qui offensent les vôtres, je ne peux que vous dire mes regrets. Nécessité fait loi, et de plus amples excuses ne rimeraient à rien. Il ne m'a pas fallu passer beaucoup de temps dans le Hertfordshire avant que je m'aperçoive, comme tout un chacun, que Bingley préfère votre sœur aînée à toute autre jeune fille de la région. Mais il m'a fallu attendre le soir du bal donné à Netherfield pour comprendre que ses sentiments témoignaient d'un réel attachement. Je l'avais souvent vu amoureux avant cela. Lors de ce bal, tandis que j'avais l'honneur de danser avec vous, j'appris d'abord par une indiscrétion de Sir William Lucas que l'attention que Bingley portait à votre sœur était telle que tout le monde attendait qu'il se marie. Il en parlait comme d'une certitude, comme si seule la date restait à fixer. Dès lors, j'étudiais attentivement le comportement de mon ami et je pus alors m'apercevoir que son inclination pour Miss Bennet dépassait tout ce que j'avais pu remarquer chez lui jusqu'ici. Votre sœur aussi, je la regardais. Son apparence et ses manières étaient ouvertes, gaies et tout à fait engageantes, mais sans témoigner d'une affection particulière. Et après cette soirée passée à les observer, je restais convaincue que même si elle recevait ses attentions avec plaisir, elle ne les encourageait pas par des sentiments réciproques. Si vous, vous ne vous êtes pas trompé sur ce point, c'est que j'ai commis une erreur. La connaissance particulière que vous avez de votre sœur rend plus probable la seconde hypothèse. Si tel est le cas, et qu'ainsi, induit en erreur, je lui ai fait de la peine, votre rancune est parfaitement justifiée. Mais je n'aurais pas de scrupule à affirmer que l'allure et le comportement de votre sœur étaient d'une telle sérénité que le plus fin observateur n'aurait pas pu faire autrement que de conclure que, si aimable que fût son tempérament, son cœur, lui, n'était pas si facile à atteindre.
Alors, il l'a demandé en mariage, elle a refusé, et il lui parle de sa sœur.
C'est ça.
Parce que quand elle l'a refusé cette demande, elle lui a reproché le fait qu'il avait nui à sa sœur, en la pensant pas amoureuse de Bingley, et puis aussi qu'il s'était très mal comporté avec Wickham, son frère de lait, en fait, qui était effectivement quelqu'un qui dépendait de... Voilà. Mais il faut savoir aussi que Darcy est très fortuné, et qu'aussi ce qui a beaucoup, beaucoup déplu à Elizabeth, c'est que... il lui fasse une demande en mariage en lui concédant que bon bah vraiment pourtant elle est ses parents sont des idiots, elle a une très petite fortune, enfin bref en lui
en fait avec mépris, soulignant le rapport de classe, ouais.
Soulignant le rapport de classe et en lui signifiant qu'il faisait un acte vraiment extrêmement noble en s'abaissant à lui proposer sa main. Donc c'est aussi beaucoup ce qui a blessé Elizabeth. Mais ce titre, Orgueil et préjugés, dit tout. Je pense que tous ces livres auraient pu s'appeler comme ça et que peut-être aussi beaucoup de films que j'ai écrits auraient pu s'appeler comme ça. Enfin, c'est un titre qui me plaît beaucoup.
Quand est-ce que vous découvrez Jane Austen ?
C'est grâce à Anne Lenny, la comédienne et réalisatrice Anne Lenny. Et j'ai 25 ans, je suis pas toute petite.
Qu'est-ce que vous y trouvez ?
Tout ce que j'aime. Une observation qui a l'air de rien et qui est sanglante, sans pitié, sans phare, une pudeur, un humour et aussi une trame narrative qui est irrésistible et qui d'ailleurs, en fait, a été copiée par 1000 scénaristes. Shonda Rhimes, qui est la reine des séries de scandales à Bridgerton, etc. C'est toujours le même principe. Hein. Enfin, c'est souvent le même principe. C'est-à-dire qu'elle se trompe d'amoureux au départ, quoi, à cause de ses préjugés, à cause de son orgueil. C'est d'un féminisme qui se voit pas forcément au début. Hein. Mais en fait, ça décrit tellement la place des femmes, enfin que voilà, que en fait à cette époque, soit elles se mariaient, soit elles étaient au couvent, soit elles dépendaient de tel oncle, tante. Enfin bref, ça parle de des différences sociales de façon extrêmement précise, des faux semblants, de l'apparence, de puis plein d'autres choses aussi. Par exemple, je sais plus dans lequel elle découvre qu'on peut trouver beau des paysages, qu'on peut s'extasier. Elle découvre la beauté de la nature, mais à travers des gens qui la décrivent. Enfin, et puis voilà, c'est pas bêtement contre les aristocrates et pour les pauvres ou pour. Enfin non, c'est d'une subtilité, d'une précision.
Ça me fait penser à deux choses en vous écoutant, Agnès Jaoui. Déjà à vous à la fin du film de Sophie Filière, sans en dire grand chose, mais que après la nuit. Le jour pour cette femme, c'est de se retrouver dans un paysage, d'être vraiment prise et filmée dans un paysage et de respirer dedans. Voilà. Ouais. On fait une petite parenthèse pour les gens qui iront le voir, j'espère. Et l'autre chose, c'est que vous faites directement le lien quand même avec la puissance narrative, la mécanique narrative, l'écriture scénaristique. Est-ce que ça veut dire que pour vous, de cet appétit de lecture, de cette vie de lectrice, il y a une sorte de chemin vers celle que vous êtes, celle qui écrit des scénarios, qui continue d'en écrire, celle qui est écrit des livres aujourd'hui.
Bah oui, sûrement, forcément, et notamment encore une fois, je reviens à la comtesse de Ségur que j'ai pas prise dans mes livres de chevet, mais que j'aurais vraiment pu ou dû parce que
et que vous citez d'ailleurs dans votre livre en disant la vie se sépare entre deux gens, ceux qu'on lit. Ouais. Je sais pas si j'ai lu.
Ah, bah écoutez, c'est un livre de José Cabanis qui commence comme ça en disant il y a deux sortes de gens, ceux qui ont lu la comtesse de Ségur et les autres. Et effectivement, pour l'avoir relu à mes enfants quand ils étaient petits, là aussi c'est très différent, évidemment, de Jane Austen, mais c'est aussi très féroce, très dur, très... Et aussi, je crois, avec toujours une référence à une moralité très forte, un sentiment de justice, voilà, et de...
Qui sont deux choses éventuellement différentes, d'ailleurs, la moralité et le sentiment de justice.
Pas la moralité dans le sens les bonnes mœurs.
Oui, voilà, c'est ça, oui, d'accord.
Non, alors ça l'est un peu chez la comtesse de Ségur, encore que, mais non, non, le sens moral.
Le sens moral, ouais. Ouais.
Je pense que c'est quelque chose qui m'a rassurée, dont j'ai eu besoin tôt, quoi. Comme j'étais pas croyante ni élevée dans une quelconque religion, enfin, c'était des appuis importants, j'ai l'impression.
Et du coup, pour faire le lien avec ce que vous écrivez vous, c'est-à-dire que oui, il y aurait dans ces sujets rencontrés dans les lectures, plus vous et votre vie, quelque chose qui nourrit l'écriture, quoi.
Oui, je crois, forcément.
Deuxième choix. Sur ma feuille, c'est Colette. Est-ce que ça vous va?
Très bien. Alors, je ne savais pas en fait d'où était tirée cette citation que j'ai vue, je crois, au musée Colette. Très beau musée en Puisaye. Et fait de façon... si vous ne connaissez pas et que vous aimez les livres, c'est très beau. Par exemple, il y a toute une salle où on prend un de ses livres et en fait on l'ouvre et c'est tout blanc sauf une phrase du livre.
Ah, trop beau.
Oui, c'est très beau. Il y a plein d'idées. Il y a son bureau reconstitué, etc. Mais ça, on l'a plus déjà vu. Mais sur les marches aussi du musée, parce que c'est dans un château, c'est à côté de chez elle, c'est pas chez elle. Il y a des phrases qui sont écrites sur les marches,
tranches. Non, on ne dit pas tranche. Je sais pas ce que c'est. On dit tranche pour les livres, mais enfin, je vois là.
Enfin, en tout cas, c'est un très, très beau musée. Et donc, j'avais vu cette phrase que j'avais adorée. Et curieusement, c'est Kiki la Doucette, la chatte. Kiki la Doucette, dans Dialogue de Bête, qui l'a dit à Toby le chien.
Et donc, vous vous souveniez de cette phrase, Agnès
ouais.
Jaoui.
Ouais.
Et elle est dans Dialogue de Bête.
Absolument.
C'est le chat. C'est la chat. Chatte.
Oui, inutile, je maintiens le mot. Ce n'est pas un sale petit bulle. Boule ? Comment on dit ? Un bulle.
Comme le chien ?
J'imagine, oui.
Ouais. Bulle terrier, je sais pas.
Bon. Qui me fera changer d'avis, encore. Inutile s'il méconnaît l'amour véritable. Quoi ? Ma vie aussi est inutile ? Non, Toby chien. Moi, j'aime. J'aime tant tout ce que j'aime. Si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime, et quel plaisir je me donne en aimant. Si tu pouvais comprendre de quelle force et de quelle défaillance m'emplit ce que j'aime. C'est cela que je nomme le frôlement du bonheur. Le frôlement du bonheur. Caresse impalpable qui creuse le long de mon dos un sillon velouté comme le bout d'une aile creuse l'onde. Frisson mystérieux, prêt à se fondre en larmes. Angoisse légère que je cherche et qui m'atteint devant un cher paysage, argenté de brouillard, devant un ciel où fleurit l'aube, sous le bois où l'automne souffle une haleine mûre et musquée. Tristesse voluptueuse des fins de jour, bondissement sans cause d'un cœur plus mobile que celui du chevreuil. Tu es le frôlement même du bonheur, toi qui gis au sein des heures les plus pleines. Et jusqu'au fond du regard de ma sûre amie. Tu oserais dire ma vie inutile, tu n'auras pas de pâté ce soir.
C'était quoi la citation qui vous a fait revenir vers ce texte, Agnès Jaoui ?
J'aime tant tout ce que j'aime, si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime, et quel plaisir je me donne en aimant. Si tu pouvais comprendre de quelle force et de quelle défaillance m'emplit ce que j'aime.
Comment vous découvrez Colette ?
Je pense grâce à ma maman. et je l'aime passionnément. En plus, je crois que j'aime ce qu'elle écrit et ce qu'elle est. Et puis, justement, on n'avait pas de maison de campagne, mais grâce à Colette, j'ai aimé la campagne. Et je crois que j'ai aimé tout ce qu'elle aime, justement. Les hommes, les femmes, le musical, sa liberté, son écriture, les truffes, la nourriture, la gourmandise, les animaux, bien sûr. Et voilà, et comment, grâce à des mots, simplement, elle vous donne accès à la beauté des choses, aussi simple que ce qui vient d'être décrit là. Pourtant, elle a aussi connu la dépression et
Parce qu'elle parle d'un cœur qui s'assombrit aux heures sombres, au passage.
Mmh. Oui, bien sûr, là où beaucoup de cœurs s'assombrissent, et où les animaux pleurent et les bébés crient. et là où les endorphines baissent, oui, elle est. Mais justement, c'est certainement aussi grâce à ça qu'elle jouit du moindre espace de jouissance.
Et vous y croyez-vous à cette idée qu'on peut embellir des choses qu'on aime parce qu'on les aime ?
Ah ben, c'est parce qu'on les aime qu'on embellit les choses qu'on aime. Et qu'on les embellit pour les autres aussi. C'est très 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 important d'aimer. Et c'est très important d'aimer pour ses enfants. Moi, par exemple, je prends toujours du rouget ou des artichauts parce que ma mère adorait les rougets et mon père adorait les artichauts. Ils m'ont transmis...
Ça insuffle de l'amour ou du désir, quoi. Ouais.
Exactement. Ouais. De la même façon que des énergies négatives insufflent de... ou les phobies se transmettent. La peur se transmet, mais l'amour se transmet aussi. L'amour, le goût des choses se transmet aussi.
C'est cadeau.
Oui.
J'adore. Juste quand même un passage, je me disais, ah tiens, donc vous soulignez le fait que c'est un chat qui parle chez Colette. Et j'essayais comme ça de me faire juste vite fait la filmo et je crois pas qu'il y ait des chats qui parlent chez vous.
Non.
On est d'accord.
Pas encore.
Pas jusqu'à maintenant.
Non.
Voilà.
Ça pourrait arriver.
Est-ce qu'on va vers Georges Eliot en troisième temps ?
Ouais. En fait. Bon, comme un peu partout, mais je crois que. En fait, chaque page, je pourrais la lire. J'ai recommencé Middlemarch de Georges Eliot. Et en fait, je vais lire la page où, voilà, 51, j'en suis là, de ma relecture, et en fait, tout est tellement beau.
Alors, c'est quoi ? Donc, c'est un texte de 1871, qu'on va lire dans une traduction de Sylvère Monod. Donc, 19e encore, Jane Austen aussi. D'où vous vient votre amour pour ce texte-là, Agnès Jaoui ?
Alors, c'est encore Anne Luni qui me l'a fait découvrir. Jane Austen commence à être un peu connue en France, mais pas, voilà. George Eliot, pas du tout, je crois. Or, c'est absolument remarquable. C'est d'une précision, c'est d'une drôlerie, c'est d'une... Et ce que j'aime aussi beaucoup, beaucoup, c'est que tous les personnages qu'elle décrit sont pas d'un seul tenant. C'est-à-dire que... ces héroïnes ont des défauts, des graves défauts, et les personnages les pires, tout d'un coup vous émeuvent complètement, enfin vous parvenez à comprendre pourquoi ils sont tous
chacun étriqués. Chacun a ses raisons, quoi.
Comme dirait Renoir. Il pense comme moi, se dit Dorothea, ou plutôt sa pensée est un univers entier dont la mienne n'est qu'un pauvre miroir à dessous. Quant à ses sentiments de surcroît, quant à toute son expérience, c'est un vrai lac en comparaison de ma petite mare. Mademoiselle Brooke fondait ses raisonnements sur des mots et des penchants avec tout aussi peu d'hésitation que les autres jeunes personnes de son âge. Les signes sont de petits faits mesurables, mais les interprétations sont illimitées, et chez les jeunes filles au naturel tendre et ardent, tout signe est capable de faire surgir un émerveillement, un espoir, une confiance vaste comme le ciel, mais empruntant leur couleur à la diffusion d'une quantité infinitésimale de connaissances. Elles ne conduisent pas toujours à de trop grossières erreurs, du fait que Mademoiselle Brooke s'était trop pressé d'accorder sa confiance, il ne découle pas clairement que M. Casaubon en ait été indigne. Il resta un peu plus longtemps qu'il n'en avait eu l'intention, sous la légère pression d'une invitation de M. Brooke, qui n'offrit pas d'autre appât que ses documents personnels sur les destructions de machines et les incendies de meules. M. Casaubon fut invité dans la bibliothèque pour en contempler la masse, cependant que son hôte, en saisissant l'un puis l'autre, afin d'en lire des passages à haute voix, de façon fragmentaire et hésitante, sautant d'un paragraphe inachevé au suivant en disant « Oui, oui, bien sûr, mais là, tenez !» Il finit par les mettre tous de côté pour ouvrir le journal tenu pendant sa jeunesse au cours de ses voyages sur le continent. Monsieur Casaubon constituait un auditoire digne, bien qu'un peu morose. Il s'inclinait au bon moment et évitait dans toute la mesure du possible de regarder quelque document que ce fût, sans manifester de dédain ni d'impatience. N'oubliant pas que cette allure sautillante était associée aux institutions du pays et que l'homme qui l'emmenait faire cette rude galopade mentale était non seulement un aimable amphitryon, mais aussi un propriétaire terrien et un custos rotulorum. Point. La pensée que M. Brooke était l'oncle de Dorothea l'aida-t-elle à subir cette épreuve ? Assurément, il semblait de plus en plus résolu à obtenir qu'elle lui parlât, et lui parlât sans réserve, comme le remarqua Célia par elle. De plus, quand il regardait Dorothea, il avait souvent le visage éclairé par un sourire qui ressemblait à un pâle soleil d'hiver. Avant de partir, le lendemain matin, faisant une agréable promenade avec Mademoiselle Brooke sur la terrasse couverte de gravier, il lui avait déclaré qu'il éprouvait les inconvénients de la solitude. Le besoin de cette compagnie joyeuse par laquelle la présence de la jeunesse peut alléger et diversifier les tâches austères de la maturité. Il avait prononcé cette déclaration avec autant de rigueur calculée que s'il avait été un diplomate en mission dont les paroles seraient grosses de conséquences. En vérité, M. Casaubon n'avait pas l'habitude de se voir contraint de répéter ou de modifier ses déclarations de nature pratique ou personnelle. S'il avait soigneusement énoncé certains penchants, le 2 octobre, il lui paraissait suffisant pour s'y référer de citer cette date. Car il en jugeait d'après le modèle de sa propre mémoire, qui était un volume où un vide supra pouvait tenir lieu de répétition et ne ressemblait pas à l'habituel cahier de buvard longtemps utilisé, qui parle seulement d'écrits oubliés. Mais dans le cas présent, les confidences de M. Casaubon ne risquaient pas d'être déformées, car Dorothea écoutait et retenait ses propos avec l'ardent intérêt d'un jeune être frais et moulu pour qui tout élément de variété dans l'expérience fait époque.
En fait, il est encore question d'observation, de jeu de pouvoir dans une scène de dialogue, quoi. En fait, c'est deux personnes qui parlent et on est en train de regarder comment, juste en parlant, les phrases qu'il fait, la manière dont il agence sa propre parole... C'est presque un, je sais pas, un surplomb, quoi, ou une mainmise sur cette jeune fille, non ?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là aussi, tout est décrit avec une précision, une ironie. Mmh. C'est délicieux. Tout du long du livre, c'est comme ça. Puis pareil, sur comment on se trompe. Mais enfin, voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. Enfin, si, il n'y a que du jugement. Mais un jugement... tellement fin et tellement plein d'empathie et de connaissance de l'âme humaine. Mmh. En fait, oui, je crois que j'aime beaucoup dans toutes ces personnes. Elles sont pas dupes des jeux de dupes.
C'est exactement ce que j'allais dire, mais c'est. Enfin, j'allais dire que ça me faisait quand même penser à ce que vous écrivez, filmez, jouez depuis longtemps, Yajaoui. Mmh. C'est qu'il y a quelque chose de n'être pas dupe, quoi. Et en même temps. Que certains de vos personnages le soient et que vous regardez cette duperie comme étant une des réalités de nos vies humaines, quoi. Ça fait partie de ce qu'on est, ça fait partie de
Mais
ce
bien sûr,
est.
Et puis on peut pas naître pas dupe.
Jamais.
Non, mais voilà, c'est ça. On est innocent, entre guillemets. Enfin, je veux dire, en tout cas, on est bien obligé de se faire duper pour devenir moins dupe. Et donc, ce pourquoi, oui, j'ai de l'indulgence pour les duper. Mais, et puis, bon, voilà, et puis on continue à se faire duper, enfin, je veux dire, toute sa vie, j'imagine, plus ou moins. Et puis même des fois, on a envie d'être dupé. On a envie d'y croire, on est content d'être dupé.
Bien sûr.
Donc, mais c'est vrai que j'aime bien les gens qui le savent.
Ouais. Non, il y a une forme de lucidité dans les choix que vous avez faits, en tout cas là, dans ce qui se présente à nous. J'imagine qu'on serait venu un autre jour, peut-être ça aurait été différent, mais en tout cas, il y a quelque chose, oui, de la lucidité, avec du jugement, mais sans jugement, mais sans trop de jugement.
Non, avec du jugement. Moi, je pense que tout le monde juge tout le monde. Hein, mais il y a un jugement qui est fermé et qui est ou condescendant. Et puis, il y a un jugement je juge les autres, mais je me juge moi-même. Enfin, voilà, qui est... qui est un point de vue.
Quatrième choix. Alors, ou Padoura ou Musil.
Alors, on va faire Musil parce que Padoura, il est quelque part dans ma chambre.
Bon, l'homme sans qualité. Donc, ce texte. Du tout début des années 30, souvent évoqué par les gens que nous recevons au Book Club comme étant le livre qu'ils n'ont jamais lu mais qu'ils vont un jour lire. Peut-être un jour.
Moi je l'ai lu mais je ne m'en rappelle pas du tout. Je m'en rappelle un peu quand même.
Il y a une traduction dans la parution en 1957.
Extraordinaire.
De Philippe Jacotet.
Voilà.
Grand poète, immense poète. Ouais. Peut-être vous voulez nous dire, avant de choisir l'extrait, pourquoi est-ce qu'il figure dans ce... Dans ce panthéon littéraire ?
Parce que c'est un livre qu'adorait Jean-Pierre, qu'il y ait question de cet homme sans qualité. Là aussi, c'est un livre sur la duperie et qui n'est pas dupe, enfin, vraiment. Et qui a aussi une relation entre un homme et une femme qui sont âme sœur, qui est une très belle relation entre un homme et une femme, qui est décrite, qu'on ne trouve pas si souvent. Parce que c'est une somme, parce que c'est le livre d'une vie pour son auteur et je pense aussi pour les gens qui le découvrent, qui le lisent.
Et vous l'avez lu parce que Jean-Pierre Bacri l'aimait ?
Oui, bien sûr. Ouais. Et d'autant qu'il lisait assez peu de romans. Donc voilà. Donc c'est oui, il lisait les romans que j'aimais, je lisais ce qu'il aimait. Assez logique. Bon, écoutez, j'ai pas cherché longtemps. Je commence par ça.
Allez.
Un chapitre, le chapitre 3, qui s'appelle « Même un homme sans qualité peut avoir un père à qualité ».
Pardon, je lis trop fort, mais je ris trop fort, mais c'est drôle quand même.
Non, c'est « Je lis trop fort », c'est joli.
Ouais, faites des lapsus, c'est drôle.
Quand l'homme sans qualité, quelque temps auparavant, était rentré de l'étranger, ce n'était au fond que par insolence et parce qu'il avait horreur des appartements ordinaires qu'il avait loué ce petit château. Celui-ci, naguère résidence d'été aux portes de la ville, avait perdu son sens, quand la ville l'avait submergé pour n'être plus enfin qu'une parcelle hors d'usage attendant la hausse des prix et que personne n'habitait. Le loyer en fut par conséquent minime. Mais il fallut des sommes considérables et inattendues pour le reste, c'est-à-dire pour tout remettre en état et tout adapter aux exigences du présent. C'était devenu une aventure dont l'issue contraignit l'homme sans qualité à recourir à son père, chose fort peu agréable pour quelqu'un qui, comme lui, aimait l'indépendance. Il avait 32 ans et son père en avait 69. Le vieux monsieur fut épouvanté, non pas tant à cause de cette attaque brusquée, bien qu'à cause d'elle aussi, car il avait horreur d'être pris à l'improviste. Pas davantage à cause de la contribution qu'il devait fournir, car il se félicitait au fond que son fils eût manifesté le besoin d'un intérieur et d'un ordre personnel, mais qu'on s'appropriait une maison à laquelle on ne pouvait donner d'autre nom que celui de château, ou même simplement de pavillon, heurtait ses sentiments profonds et l'inquiétait comme une présomption de mauvais augure. Lui-même avait débuté comme précepteur dans de grandes maisons au temps de ses études. Plus tard, stagiaire chez un avocat, et alors même que ce n'était plus une nécessité, son propre père était déjà un homme aisé. Il avait continué. Par la suite, devenu privat docent, puis professeur à l'université, il se sentit payé de ses peines. Car le soin qu'il avait mis à entretenir ses relations fit qu'il s'éleva peu à peu au grade d'avocat conseil de la quasi-totalité de la noblesse féodale de son pays. Bien que l'érudit, parvenu désormais aux honneurs, se fut retiré des affaires juridiques et n'exerça plus qu'occasionnellement une activité grassement payée d'expert. Tous les événements qui touchaient au cercle de ses anciens protecteurs n'en furent pas moins soigneusement consignés dans son journal, reportés avec la plus grande minutie des pères aux fils et aux petits-fils. Il n'était pas de promotion, de mariage, de fête ou d'anniversaire sans qu'une lettre, délicat mélange de déférence et de souvenirs communs, vint en féliciter le destinataire. Non moins ponctuelles étaient à chaque fois les réponses, brèves, qui remerciaient le cher ami et l'estimaient savant. il devint non seulement professeur, membre d'académies diverses et de maintes comités scientifiques ou politiques, mais encore chevalier, commandeur et même grand croix d'ordres importants, jusqu'à ce que Sa Majesté, après l'avoir nommé membre de la Chambre des Seigneurs, lui accorda finalement la noblesse héréditaire. Lorsqu'il apprit l'histoire du château, il y vit aussitôt la transgression d'une limite non définie par la loi, mais qu'il fallait pour cette raison même respecter d'autant plus scrupuleusement. Il fit à son fils des reproches plus amers encore qu'aucun de ceux qu'il lui avait déjà fait au cours des années, et ces reproches sonnaient comme la sombre prophétie du commencement de la fin. Le sentiment fondamental de sa vie était offensé. Comme chez beaucoup d'hommes qui atteignent à une situation importante, c'était à milieu de tout égoïsme, un amour profond pour ce que l'on pourrait appeler l'utilité publique et suprapersonnelle, en d'autres termes, un respect tout honorable de cela sur quoi l'on fonde son avantage, non point parce qu'on le fonde, mais en même temps qu'on le fonde, en harmonie avec ce fait, c'est-à-dire, somme toute, pour des raisons tout à fait générales. La chose est d'importance. Un chien de race, s'il cherche sa place sous la table à manger sans se laisser détourner par les coups de pied, ce n'est point par bassesse de chien, mais par attachement et fidélité. Et dans la vie, ceux-là même qui calculent froidement n'ont pas la moitié du succès qu'obtiennent les esprits bien dosés, capables d'éprouver pour les êtres et les relations qui leur sont profitables des sentiments vraiment profonds.
Bon, évidemment, je vais faire un rapprochement qui va vous paraître étrange, mais dans La taille de nos seins, Agnès Jaoui, vous racontez la très grande conscience de classe ou de différence de classe ou d'observation des différences de classe que vous avez eue enfant, dès l'enfance, que tout de suite vous avez vu, en fait, ces choses-là. Tout ce qui est décrit là, qui pourrait être, je sais pas, aussi la reproduction de Bourdieu, enfin, cette capacité de voir comment les choses se transmettent, comment il y a des gens qui ont une aisance à maîtriser certains codes, que d'autres découvrent parfois très tard. Comment ça c'est juste de quitter Sarcelles pour arriver à Paris qui est à l'origine de cette acuité d'enfant?
Oh ben oui.
Moi c'est ça, c'est vraiment ce fait biographique.
Oui, je pense que ça a beaucoup compté. Après, mes parents étaient déjà en rupture avec ce qu'on pourrait appeler la communauté juive, enfin en tout cas, et même en Tunisie, ils étaient déjà en rupture avec une certaine façon de vivre parce qu'ils étaient la Chomer HaTzahir, qui a aussi beaucoup compté, donc qui était un mouvement sioniste, marxiste, socialiste, enfin etc., mais très émancipateur par rapport à voilà qui leur a fait découvrir Aragon, etc. Mais de toute façon, ils étaient déjà très avide de culture et déjà oui décalé, et mon père était totalement anticonformiste, donc tout ça déjà je pense nous a formé, mon frère et moi, forcément. Mais c'est sûr que le fait de passer de Sarcelles au 5e arrondissement de Paris et à l'école de la rue Buffon a été fondateur, ça bien sûr. Mais après, ça s'est tout le temps reproduit. Je veux dire, chez Chéreau, j'étais à côté, à Henri IV, j'étais à côté, avec les Juifs, j'étais à côté, avec les féministes, je me sens à côté. Enfin, je me sens toujours à côté, en fait.
C'est marrant parce que, en effet, quand vous décrivez d'abord vos parents, avant de parler de ce déplacement-là de Sarcelles à Paris, c'est un écart, en fait. C'est des prises de distance. Du coup, ça crée un écart. Et en fait, dans un écart, on voit les choses différemment, quoi. On voit un peu.
Bah oui.
Comme il y a un écart.
Oui, exactement. Ça s'appelle la marge.
Ça crée un autre angle, quoi. Ouais, c'est ça, la marge, ouais.
Exactement. Alors, c'est pas marrant, toujours, hein. Mais notamment.
Est-ce que c'est confortable?
Non, non, pas du tout. Alors, et puis surtout pas enfant, où, enfin, on n'a qu'une envie, c'est d'être comme tout le monde, je pense, hein. Mais au fur et à mesure, c'est pas mal. Puis de toute façon, c'est comme ça que j'ai été construite, donc je sais pas très bien faire autrement, en fait. Voilà.
On va chercher. Enfin, vous allez chercher Padoura dans votre chambre.
Ah oui, oui.
Enfin, sauf si on dit d'autres choses sur.
Non, non,
sur
non.
Musil.
Non, non.
C'est fini.
Il faut le laisser parler lui-même. Hein.
On vous attend là. Il y a des post-it partout comme quelqu'un qui travaille un texte.
Ça, c'est sûr. Ah oui, regarde, celui-là, peut-être plutôt.
Donc, c'est une traduction de l'espagnol de Cuba par René Solis et Elena Zayas. C'est ça ou pas?
C'est ça que j'avais, moi. Alors, c'est bien parce que moi, je pense rarement à regarder les traducteurs. C'est complètement ça.
C'est ça.
Et c'est un tort de ma part parce que ça change tout.
Donc, le livre, c'est L'homme qui aimait les chiens.
C'est L'homme qui aimait les chiens. Et c'est l'histoire de... Enfin, c'est trois histoires différentes qui se rejoignent puisque c'est l'histoire de Ivan, qui est un écrivain cubain qui vit de plein fouet les dérives de la révolution cubaine, quoi. Bon, voilà. Et qui rencontre sur la plage un vieil homme. Bon, j'ai pas envie de tout dire pour pas que les gens qui découvrent ce livre. En même temps, c'est complètement con parce que c'est ça qui est dingue, c'est qu'on sait depuis le début la fin du livre. Il y a les trois histoires. Il y a celle de Ramon Mercader et comment il devient espion et l'assassin de Trotsky. L'histoire de l'exil de Trotsky, enfin de Trotsky, de son exil, de son premier exil, ses 11 années d'exil. Et l'histoire de Ivan, qui donc rencontre ce vieil homme et pendant tout le temps se demande si c'est Ramon Mercader vieilli. Parce que Ramon Mercader, une fois qu'il a assassiné Trotsky, il passe 20 ans, je crois, dans les prisons mexicaines. Et puis, en tout cas, il est abandonné par la révolution.
Mais on peut le rencontrer, je veux dire. Parce que là, c'est Ivan, si je comprends bien, c'est Ivan qui peut rencontrer cet homme-là. Il se demande si c'est lui.
Ouais, mais là, il a 75 ans et il est à Cuba. Bah, évidemment, après, il n'a été que dans les pays communistes. Et en fait, il lui raconte toute l'histoire de comment il a été instrumentalisé pour devenir l'assassin de Trotsky. Okay. Et toute cette histoire tragique de Staline et puis de la gauche qui tue ses propres enfants, de la révolution qui tue... Et il y a beaucoup de points communs avec ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, comme l'histoire se répète beaucoup, et c'est un livre qui est une somme qui est remarquable. Je conseille à tout le monde.
Bon. Donc, contrairement à tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, c'est du très contemporain. C'est-à-dire le livre sort en 2009, et l'intrigue est... c'est en 2004 que cet écrivain est peint par Padura.
Ouais.
Donc, il y a aussi cette idée-là.
Même si Lev Davidovich, c'est-à-dire Trotsky, s'attendait à la victoire national-socialiste en Allemagne et s'il était au courant des pressions qui muselaient les communistes locaux, il les avait avertis en insistant pour qu'ils saisissent leur dernière chance. La coalition qui avait mené Hitler au pouvoir était trop hétérogène et la gauche et le centre devraient exploiter cette faiblesse avant que le leader fasciste ne consolidât ses positions. Mais le temps passait et les communistes n'avaient pas proféré le moindre gémissement, comme si leur destin n'était pas en jeu. Il n'oublierait jamais que la nouvelle de l'incendie du Reichstag dans la nuit du 27 février lui était parvenue alors qu'il écrivait justement un message destiné aux ouvriers allemands. Les informations étaient incomplètes et contradictoires. Une certitude alarmante s'en dégageait cependant. Hitler avait décrété l'état d'exception et annoncé son intention de tenir sa promesse. Extirper le bolchevisme à la racine en Allemagne et dans le monde. Les messages de Lyova, un des fils de Trotsky, révélaient sa perplexité devant la tournure des événements et ils ne tardèrent pas à apporter des nouvelles qui affectaient directement l'exilé, l'interdiction du bulletin et presque aussitôt la saisie de ses œuvres dans les bibliothèques et les librairies, puis les caisses pleines d'exemplaires de son histoire de la Révolution russe, récemment publiée, brûlée en public, apportaient la preuve éclatante que l'inquisition fasciste le plaçait, lui et son groupe, parmi ses priorités. Il décida alors que ce n'était pas le moment de prendre des risques et ordonna à Lyova de quitter Berlin au plus vite. Lev Davidovich s'étrangla d'indignation en apprenant que le comité exécutif de l'Internationale communiste avait fait une honteuse déclaration d'appui au parti allemand, dont la stratégie était qualifiée de parfaite, dans laquelle il répétait que la victoire nazie n'était qu'une conjoncture transitoire dont les forces progressistes ne tarderaient pas à triompher. Plus inquiétant encore, non seulement les Allemands bien dressés, mais aussi le reste des partis affiliés au Comintern acceptaient en silence ce document, révélateur d'un suicide politique aux conséquences prévisibles. Comment les communistes pouvaient-ils se soumettre à une manipulation si grossière? Ces partis n'avaient-ils plus le moindre sens des responsabilités susceptibles de les mettre en garde contre une tragédie qui menaçait leur survie et la paix de l'Europe? S'il ne reconnaissait même pas l'imminence du danger, écrivit-il en maîtrisant sa colère, il fallait admettre que le stalinisme avait si irrémédiablement abâtardi le mouvement communiste que tenter de le réformer était devenu une mission impossible. Une des hésitations politiques les plus déchirantes de Lev Davidovitch fut balayée à cet instant. Il ne restait plus qu'à tout jeter au feu. Avec la douleur que l'on éprouve en se détournant d'un fils qui s'est égaré au point de devenir méconnaissable, il décida que le moment était venu de rompre avec l'international et peut-être d'en créer une nouvelle pour opposer au fascisme des faits concrets et pas uniquement des consignes manipulatrices qui occultaient des arrière-pensées macabres. Juste une semaine après la mort de Maya, son chien, il fut sorti du marasme de la dépression par la nouvelle tant attendue que le gouvernement de Daladier lui accordait l'asile. Il sut tout de suite combien l'hospitalité qu'on lui offrait était limitée. Il n'en hésita pas moins à accepter. Le visa stipulait qu'il était autorisé à résider dans les départements du Sud à condition de ne pas se rendre à Paris et de se soumettre au contrôle du ministère de l'Intérieur. Plus qu'un réfugié, il serait de nouveau prisonnier, mais il se retrouverait ainsi dans une des allées centrales, pas dans une cellule d'isolement. De là, il avait l'intention d'agir.
Vous allez faire un opéra avec ça ?
Oui, composé par Fernando Fisbane et mis en scène par Jacques Ozinski. Et donc, je travaille au livret.
Comment vous allez vous y prendre ?
Alors, c'est très très compliqué parce qu'en plus, il faut raccourcir, évidemment. Enfin, ouais. Il faut couper, il faut... Mais Padura nous a donné... tout loisir de faire exactement ce qu'on voulait. En même temps, je trouve que ça a tout d'un opéra aussi, parce qu'en plus, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs... Et puis, c'est une tragédie. En choisissant des angles, des moments, en faisant des sacrifices de passage fabuleux, mais voilà. On a déjà commencé quand même le travail.
Merci beaucoup, Agnès Jaoui, de nous avoir ouvert votre bibliothèque.
Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup.
Merci.
Pour le passage.
Une minute de silence.
Andreas Jaffray, Chania Jaoui, à la réalisation Vivien Demeyer, et c'est Lucas Finet qui mixe cet épisode des bibliothèques du Book Club. Vous pouvez réécouter tous les portraits de bibliothèques sur franceculture.fr à la page du Book Club. Un très grand merci à toute l'équipe.